France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, le thème de cette huitième et dernière émission de notre série estivale Mazette, quelle musique, est tout simplement ma fin et mon commencement. Cela s'imposait et ça nous a été soufflé par Guillaume de Machaut lui-même. Guillaume de Machaut, le plus grand compositeur du XIVe siècle, il parcourut l'Europe à cheval au service du roi de Bohême Jean de Luxembourg, qu'il suivit dans toutes ses campagnes militaires, de la France et l'Italie jusqu'à la Russie, et dans ses fastueuses chasses. Homme d'église, sa réputation comme écrivain autant que comme musicien était immense. Plusieurs de ses ouvrages mêlent poésie et chanson. Dans le voir dit, c'est-à-dire le dit de vérité, il raconte comment, à l'âge de 60 ans, il fut saisi d'une passion amoureuse irrésistible pour la très jeune Péronne d'Armentière, qui, elle, était plus impressionnée par la réputation du vieux chanoine de la cathédrale de Reims qu'est prise de lui. Un génie donc, mais aussi un homme passionné et bien présent dans le monde de son temps. Parmi ses œuvres innombrables, un rondeau, « Ma fin et mon commencement ». Il s'agit d'une pièce énigmatique. Elle est à trois voix, le ténor qui assure la teneur à la basse, le cantus qui chante la voix principale au-dessus du ténor et le triplum, la troisième voix qui s'entremêle avec celle du cantus. Ténor, cantus et triplum, trois voix donc, et pourtant la partition de l'époque, et vous pouvez la voir sur le site de l'émission, ne comporte que deux voix. Mais d'une part, il y a des mots écrits à l'envers sur la partition, ce qui incite à la retourner pour la lire et la chanter à l'envers. D'autre part, le poème qui est aussi chanté est censé donner la clé de l'énigme. Ce poème débute ainsi. « Ma fin est mon commencement est ma fin, étonneur vraiment ». On voit bien l'arrière-plan spirituel de ce texte médiéval du chanoine Machaut. La fin de la vie terrestre, la mort, est un commencement, le début de la vie après la mort. Mais pour la musique, eh bien, ça n'est pas si compliqué. Imaginons que nous sommes trois, alignés sur une grande plage face à la mer qui est à bonne distance. Chacun ou chacune est armé d'un grand bâton. Nous respectons les règles de distanciation sociale, ça va de soi. Nous sommes donc aussi à quelques distances les uns des autres. Au milieu, le cantus, à sa droite, le ténor, à sa gauche, le triplum. Nous avançons tous les trois droit vers la mer de 20 pas. 20 mesures en traçant chacun avec notre bâton une ligne sinueuse qui varie à gauche et à droite de nos pas. Nous avons ainsi tracé trois lignes différentes, plus ou moins ondoyantes. Ce sont les trois lignes de chant. Il ne nous reste plus qu'à suivre les indications du poème. « Ma fin est mon commencement ». Pour commencer, nous suivons chacun la ligne tracée. « Mon commencement est ma fin ». Nous nous retournons et nous revenons en arrière. Nous rétrogradons tous les trois. Mais alors que le ténor reste vraiment sur la ligne, « ténor vraiment », dit le poème, cantus et triplum intervertissent leurs lignes, etc. Nous allons écouter le début d'une version chantée de « Ma fin et mon commencement ». J'interviendrai un peu pour vous signaler les choses, mais m'envoyez pas, j'aurai l'accent d'il y a 7 siècles. « Ma... » « Fine ». Mon comme main semant et mon comme mince mon ma Tout cela est super astucieux, un jeu de l'esprit hautement distrayant et même pratique, il faut bien le dire, pour ne pas s'ennuyer sur la plage en période de pandémie. Les compositeurs théoriciens des années 1900 et 1970, certains d'ailleurs auraient peut-être dû aller plus souvent à la plage, ont naturellement vu en Machaut la figure du père qui légitimait par cette œuvre énigmatique complexe du XIVe siècle leurs propres recherches abstraites et mathématiques du XXe siècle. Mais dans les années 1340 comme hier, et aujourd'hui et demain, ce qui compte, me semble-t-il, pour nous autres non-spécialistes, ce n'est pas le degré d'abstraction et de sophistication théorique, c'est la musique avant toute chose, la musique qui nous plaît, parce qu'elle nous émeut et qu'elle nous saisit. C'est toute la différence mazette entre les musiciens géniaux, fussent-ils des grands théoriciens et des rois de la spéculation intellectuelle, et puis tous les autres. Nous écoutons une pimpante version instrumentale avec deux cornets à bouquin pour le cantus et le triplet, et un chromorne, un genre de hautbois ténor, pour la teneur. Après Machaut, plusieurs compositeurs écrivirent au cours des siècles de tels canons rétrogrades, plus ou moins sophistiqués. Parmi eux, quelques génies, comme celui-ci, qui composa ce canon à deux en ne donnant qu'une seule ligne et en ajoutant malicieusement sur la partition « Querendo in Venietis ». En cherchant, vous trouverez. Nous sommes le 7 du 7 1747. Le premier canon à l'écrevisse de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Dans le secret de cette émission, je vous dis tout, il suffisait pour la deuxième ligne musicale de lire la première à l'envers, en avançant de droite à gauche comme une écrevisse.
Mazette, quelle musique ! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Nombreuses sont les œuvres dans lesquelles la fin donne à entendre le commencement. Et vous en souvenez peut-être, nous avons rencontré plusieurs de ces œuvres au cours de nos balades estivales dans Mazette, quelle musique ! Ceci n'est donc pas rare, mais cela ne devient saisissant, passionnant, que quand la réapparition du commencement à la fin de l'œuvre augmente son impact musical, dramaturgique, émotionnel. Tel est le cas du cycle de Lieder, L'amour et la vie d'une femme de Robert Schumann, composé en 1840. 8 épisodes de la vie d'une femme, c'est elle qui parle d'ailleurs, coup de foudre inaugural, fiançailles, mariage, maternité, etc., jusqu'à la mort de l'époux bien-aimé. Poésie délicate, un peu tiède et datée. Le texte du premier lied pourrait se résumer trivialement ainsi « Depuis que je l'ai vu, je ne vois plus que lui et tout me paraît fade ». La musique en majeur adopte un ton retenu, comme si la jeune fille à fleur de peau tentait de contenir son émotion, émotion qui la submerge et la douce inquiétude de l'avenir aussi. C'est Senna Jurinac, accompagnée par Franz Oleczek, qui interprète ce premier lied. Le dernier lied à présent, en résumé, maintenant tu as causé ma première douleur, tu dors du sommeil de la mort, j'ai vécu et aimé et je ne suis plus vivante. Musicalement, c'est une déploration. La voix avec une ligne très simple est accompagnée avec sobriété par quelques accords du piano, on croirait vraiment un lamento de Cavalli ou de Monteverdi. Et puis la voix se tait et de manière saisissante, la ligne mélodique du premier lied réapparaît, mais au piano seulement, certes en majeur, mais pour ne dire que la désolation qui va vers le silence et la mort. L'émotion est extrême. Rétrospectivement, on se demande si le premier lied avec son ton retenu était un instantané prémonitoire ou si le cycle entier n'est en fait qu'une série de flashbacks empreints de deuil. Nous écoutons ce dernier lied de l'amour et de la vie d'une femme de Schumann. C'est toujours la voix sublime de Senna Jurinac et Franz Oleczek est au piano. Explicate the firm love. Autre exemple magnifique qui prend d'ailleurs un relief particulier à la lumière de ce que nous venons d'entendre, Pli selon pli, grande œuvre de la première maturité de Pierre Boulez, œuvre très hédoniste, luxuriante, tout empreinte de la poésie de Stéphane Mallarmé. 5 parties, au centre 3 improvisations, chacune sur un sonnet de Mallarmé, encadrées par 2 pièces inspirées de poèmes de Mallarmé aussi, la première Don du poème, la seconde Tombeau de Verlaine. Don et Tombeau sont des pièces presque exclusivement orchestrales. Dans Don, la voix n'intervient qu'au tout début, un accord brutal, tranchant, tout de l'orchestre rompt le silence et la voix chante très simplement un seul alexandrin, le premier vers de Don du poème « Je t'apporte l'enfant d'une nuit dite du mai ». Du silence et de la nuit surgit l'élan créateur. Soixante-dix minutes plus tard, de manière très symétrique, dans Tombeau, la voix n'apparaît qu'à la fin et ne chante que le dernier alexandrin de Tombeau, un peu profond ruisseau calomniait la mort. La ligne mélodique est très fleurie dans l'aigu et le suraigu et se moque un peu de l'intelligibilité de ce qu'elle chante, un peu profond ruisseau calomniait, la voix s'arrête, elle reprend dans le grave pour les deux derniers mots, la mort, on entend d'ailleurs à peine le mot mort, comme exhalé dans un dernier souffle, suivi par la reprise de l'accord violent de tout l'orchestre, l'accord initial. Alors certes, cet accord initial et final nous fait sentir que l'œuvre est une totalité close, à elle seule un monde, mais qui a le dernier mot? Le don et l'élan créateur du commencement ou la mort indicible de la fin? trois compositeurs, Mahler, Strauss, Bartok, trois œuvres et trois façons de nous saisir par un jeu musical parfait entre commencement et fin. Séquence mahlérienne d'abord, je vous propose d'écouter des extraits de trois œuvres de Gustav Mahler, des débuts et des fins, dans l'ordre chronologique de leur composition, des passages magnifiques, tous interprétés par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. D'abord sous la direction de Bruno Walter, en 1952, c'est la fin du Chant de la Terre, avec la voix de Kathleen Ferrier, « Les lointains bleuissent lumineux, éternellement, éternellement ». L'œuvre suivante, la 9e symphonie, uniquement orchestrale, débute là où s'est terminé le Chant de la Terre. Du silence ressurgit très lentement la musique, à peine audible d'abord, notes isolées pianissimo des violoncelles, des cors, de la harpe, esquisses de mélodie des cors, tremblement des altos, enfin apparition du thème. Toujours sous la direction de Bruno Walter, mais en janvier 1938, à Vienne, les premières mesures du premier mouvement de la 9e symphonie de Mahler. À présent, la fin de la symphonie elle-même, les dernières mesures du quatrième mouvement. Musique, là encore, de retour au silence, mais si règne toujours cette douceur ineffable, comme à la fin du chant de la terre ou aux extrémités du premier mouvement de cette neuvième symphonie, on est maintenant très loin de ce que l'on vient d'entendre. Le tempo se ralentit peu à peu, la sonorité s'amenuise, il ne reste plus que les cordes, des fragments brisés de thèmes, la musique se désagrège. Y a-t-il encore un horizon ? Dernier temps de cette petite escapade mahlérienne, le début de l'œuvre suivante, l'Adagio achevé de l'inachevé, 10e symphonie. Et nous allons entendre que là encore, nous commençons là où s'était achevée l'œuvre précédente, la 9e symphonie. Mais le langage est plus ambigu du point de vue tonal, plus moderne, diraient certains. Et puis surtout, rapidement surgit un thème, on ne peut plus brucknerien, on est vraiment passé à autre chose. Toujours la Philharmonie de Vienne, mais dirigée maintenant par Daniel Harding en 2008. Des métamorphoses, des fins et des commencements chez Mahler, passons à Richard Strauss pour une toute autre histoire. Entre 1943 et 1945, dans l'émotion de la dévastation de Dresde et de son opéra, l'opéra où avaient été créées tant de ses œuvres, dont Elektra et le Chevalier à la Rose, puis de la destruction de Weimar, de Munich, de Vienne, finalement de Berlin, Strauss écrit les métamorphoses pour 23 instruments à cordes. C'est un vaste adagio splendide. Son thème principal est en réalité celui de la marche funèbre de la 3e symphonie de Beethoven, l'héroïque. En réalité, parce que si les avatars, développement, métamorphose de ce thème unique s'entendent dès les premières mesures, le thème lui-même n'apparaît explicitement qu'à la toute fin de l'œuvre, retrouvant ainsi une identité première à l'issue d'un long parcours, très nietzschéen à tout cela, non ? Ma fin est mon commencement et mon commencement est ma fin. Écoutons d'abord le thème original, c'est-à-dire le début de la marche funèbre de la 3e symphonie de Beethoven, la musique qui fut diffusée par la radio allemande juste après l'annonce, le 1er mai 1945, de la mort d'Hitler, marquant de fait la fin de la sinistre aventure du Reich. Et c'est donc 12 mesures avant la fin de l'œuvre qu'apparaît enfin, même pas seul à découvert, la citation au violoncelle et au contrebasse à l'unisson de ce thème dont l'œuvre est issue, thème resté jusque-là implicite au cours des 25 premières minutes. Nous écoutons maintenant toute la coda des métamorphoses, empreinte de nostalgie poignante et de résignation, avec, comme on vient de l'entendre, cette révélation du thème issu de la marche funèbre de Beethoven, In Extremis, In Memoriam, écrit Strauss à cet endroit de la partition. Je vous dois à présent un aveu et vous allez comprendre pourquoi. Les autorités sanitaires ont réagi après notre émission sur les clusters. Et pour nous rattraper en quelque sorte, nous avons accepté de diffuser aujourd'hui dans cette dernière émission des messages en ligne avec le plan national de prévention santé et la campagne manger, boire, bouger. Parmi les messages proposés, nous en avons retenu 3. Manger et boire sainement, pratiquer un sport, se montrer solidaire. Nous avons consulté plusieurs compositeurs et pour frapper les esprits, nous avons finalement retenu une chanson polyphonique à 6 voix au rythme bien marqué de Claude Lejeune. Nous espérons vivement que ceci complaise aux autorités sanitaires. Merci aussi à Dominique Viss et à ses compères.
Je voue à toi mon compagnon.
Sweetheart Mary,
Sweetheart Karen,
on Angleterre nous
Mazette, quelle musique ! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Reprenons notre escapade parmi fins et commencements entrelacés et ensorcelants avec le 6e quatuor à cordes de Béla Bartók, chef-d'œuvre qu'on ne qualifierait pas de gai ou d'entraînant. Il fut écrit en 1939, la guerre éclate, ouvrant la voie au saccage de l'Europe, la mère de Bartók meurt, Bartók lui-même, prématurément vieilli, pressent qu'il va devoir partir pour l'exil et la misère, c'est le commencement de la fin. Ce 6e quatuor a 4 mouvements, tous marqués mesto, c'est-à-dire triste. Les 3 premiers débutent par une introduction qui reprend une seule et même mélodie, triste et lancinante. Premier mouvement avec l'alto sol, une seule voix donc. Deuxième mouvement, c'est le violoncelle qui énonce cette mélodie triste. Il est accompagné des 3 autres instruments, les 2 violons et l'alto à l'unisson, en sourdine, donc 2 voix. Troisième mouvement, c'est le premier violon qui tient la ligne mélodique, doublé par l'alto, et le second violon et le violoncelle ont chacun une voix différente, 3 voix donc, et toujours ce même thème d'une tristesse poignante. Ce thème mesto, triste, va littéralement envahir le dernier mouvement, chacun des 4 instruments à son propre chant. Et pour le 4e mouvement, ce n'est plus seulement l'introduction, c'est tout le mouvement qui est construit autour de cette mélodie d'une tristesse déchirante. Ainsi, cette mélodie mesto clôt le mouvement et l'œuvre. Accords aigus forte, puis fortissimo, reprise piano de la mélodie par le violoncelle, accords pianissimo et tremblement avec sourdine comme un dernier tressaillement avant de rejoindre le silence. Par métastase puis par prolifération, le commencement de l'œuvre s'est imposé jusqu'en cette fin désespérée. Ce jeu entre fin et commencement peut aussi exprimer en musique tout à fait autre chose de moins désespérant, voire même de tout à fait joyeux. C'est le cas de la scène finale de La Petite Renarde Rusée, chef-d'œuvre de Janáček, s'il en fut. Le soleil brille après l'averse. À la lisière de la forêt, le forestier qui, plus tôt dans l'opéra, a tué la petite renarde, est assis contre un arbre, comme au tout début de l'opéra, Comme au tout début de l'opéra, il se rappelle avec émotion ses amours passionnées et champêtres avec la jeune épouse le lendemain de ses noces, à cet endroit même, et il philosophe sur la beauté de la nature qui toujours se renouvelle. Il va s'assoupir de contentement lorsque, comme au début de l'opéra, il voit passer une petite renarde. « Ah, sa mère toute crachée, je t'attraperai comme ta mère, mais je t'élèverai mieux pour qu'on n'écrive pas des histoires sur nous dans les journaux et dans les scènes d'opéra. » Paniquée par la petite renarde, une grenouille bondit et atterrit sur le visage du forestier, comme au début de l'opéra. « Ah, petite bête froide, te revoilà !» La grenouillette tremblotante répond « Ça, c'est pas moi, c'était ma grand-mère, elle m'a parlé de vous. »
Jak by mám je zvoka vypadla, počke, tebe si drapu, jak tvojí mám, ale lépe si tě vychovám, aby lidé o mě a o tobě nepsali v novinách. Otvora studená, te se tu pereš.
Toto, mese mňa, toto, velike duše, ani mne o vás, ve, ani mne o vás, ve, kladali.
En reprenant à la fin de La Petite Renarde Rusée la musique du commencement de l'opéra et tous les grands thèmes de l'œuvre, Leos Janáček nous dit par la musique quelque chose sur le grand cycle de la vie, de l'amour et de la mort, sur l'homme en paix avec la nature et avec tous ses habitants. Une autre musique, belle à pleurer aussi, tirée d'une fameuse nuit des griots du Mali. Les griots, les jalis, comme on dit en malinké, antidote des forces néfastes, gens de réjouissance, sont des dynasties de poètes, danseurs, conseillers des princes, démarcheurs matrimoniaux et musiciens. Ils portent le verbe haut et sont accompagnés d'instruments traditionnels ou modernes, petits tambours, xylophones balafon, instruments à cordes, notamment la très impressionnante kora. Dans Saheli Veri, c'est-à-dire le Sahel vert, le griot invite au nom d'Allah et du grand Mali des ancêtres les femmes et les hommes de l'ancien empire mandingue, Mali, Sénégal, Guinée, Mauritanie, Côte d'Ivoire, etc., mais aussi les femmes et les hommes de bonne volonté de France et du Luxembourg à agir ensemble pour que le Sahel reverdisse.
Yo moti ya no fo alade
Benu elale olu haulile Lolodo ulita olu reto siti Alaga kuwa menge maliba
Et à la fin, la quintessence de la musique du début revient.
«
nara woro
bo fo
ana fo na mo me jali aro horo jugu ku ni ko yugo suru ku banfla
ko che man jugu noy
nana te ma bela adama ya bawla sao bosra te ma bela bosra bawla
Allah ko amen ke maliba ye jomoti yana fo Allah
Comme la musique de Janáček part de la lisière d'une forêt en Moravie pour tendre à un message universel, de la même façon, la musique des griots, en particulier celle du très charismatique Ousmane Sacko et de sa femme Yacaré Diabaté, parle de la renaissance du Sahel, ardente nécessité, pas moins urgente d'ailleurs aujourd'hui qu'hier, c'est rien de le dire, mais son message va au-delà et exprime le consentement donné par l'homme à sa place dans la nature et dans le grand cycle de la nature, ou à tout le moins l'espoir qu'il en soit ainsi. En 1733, Bach met au point la version définitive de son Magnificat. Magnificat animam meam dominum, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 5 lignes vocales, un orchestre bien fourni, une œuvre en 12 parties, en tout cas c'est ce qu'on nous dit dans tous les livres, sur les pochettes de disques, sur Internet et même sur les ondes des meilleures radios. Vraie fausse coupe du jour, il en fallait bien un pour achever cette série d'émissions. Figurez-vous que l'œuvre comprend en fait 13 parties et non pas 12. Et oui, je vois que certains en sont tombés de leur chaise et que d'autres en sont totalement bouleversés et décontenancés. La soi-disant 12e et dernière partie réunit en fait 2 morceaux musicaux tout à fait indépendants et dissemblables. Un Gloria à la mine sévère à l'ancienne et puis un jubilatoire Sic utera in principio qui reprend en un peu condensé la musique du commencement de l'œuvre. Or, Sic utera in principio, ça veut justement dire comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En quelque sorte, la musique se charge de tout nous faire entendre, et la joie exaltante, et depuis le commencement, et jusqu'à la fin des temps. Nous allons écouter le commencement et la fin, qui est donc aussi le commencement, du Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Mais me permettez-vous avant une petite échappée? Oui, si, comme on veut nous le faire croire, l'œuvre n'avait que 12 parties, il n'y aurait donc pas de morceau central. Mais comme elle en a 13, il y a donc un milieu, c'est le 7e morceau, 6 avant, 6 après, on est bien au milieu. Et ce 7e morceau est un des plus magnifiques et saisissants du Magnificat, et même au-delà de l'œuvre du père Bach. C'est le Fecit Potentiam, le cœur de l'œuvre, il déploie la force de son bras, il disperse les superbes, les orgueilleux, les arrogants, dans la folie de leur cœur. Toujours d'actualité, n'est-ce pas? Premier verset, il déploie la force de son bras. Et pour ce verset, Bach compose une musique très semblable à celle du tout début et de la fin du Magnificat, avec des guirlandes en fugato à 1, puis 2, puis 3, puis 4, enfin 5 voix, tout le monde, toute l'humanité y collabore. Second verset, il disperse les superbes dans la folie de leur cœur. Et là, c'est une musique incroyable. Les voix se dispersent et se fracassent. Mazette, quelle musique! Allez, on arrête là. Retour au commencement et à la fin, qui est aussi le commencement du Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Vous me suivez? Thank you. L'émission se termine et avec elle notre série estivale. Vous le savez, c'est sur la page Mazette, Quelle musique, du site de France Musique que vous trouverez tous les références musicales, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. Grand merci à la fine équipe avec moi aujourd'hui, Adelino Mello à la technique, Flora Sternadel pour le site et à la réalisation, le très remarquable Thomas Jost, merci. Bonne fin d'été sur France Musique et pour finir en musique, la scène finale de Falstaff composée par un Verdi octogénaire mais plus juvénile que jamais. Tout le monde ou presque a été dupé. Tout le monde pardonne à tout le monde. Ce vieux sac à vin pansu de Falstaff, entouré de toutes ces femmes qu'il a désirées et qui l'ont dupé, lance alors l'étincelante fugue finale. Tutto nel mondo è burla l'uom, è nato burlone e burlone e burlone. Tout le monde n'est que farce et l'homme est né farceur. Et en retrouvant la tonalité d'ut majeur de son commencement, cet opéra plein de vie s'achève et avec lui toute l'œuvre lyrique de Verdi. C'est donc aussi cette émission et notre modeste série radiophonique qui s'achève sur l'éclat de rire final, la risata finale. Merci.
Tutto nel mondo è burla l'uom, è nato burlone e burlone e burlone.
Tutto nel mondo è burla l'uom.
Thank you.
à réécouter sur francemusique.fr.